Avec nous, Roxane Bolduc. Bonjour, Roxane.
Bon matin.
Roxane, là, un autre pas d'éducation. Je suis tanné de ça. Professeure assistante en sexologie à l'Université Laval, sexologue et psychothérapeute.
Oui.
On a eu un meeting, le meeting du lundi, un traditionnel meeting du lundi. On pitch plein d'affaires. Puis les filles me parlent de contrôle coercitif.
Oui.
Fait que là, je fais... fine. Mais pas plus que ça, vraiment.
Okay.
Puis en fait, plus on continue à discuter, je me rends compte que je sais pas trop c'est quoi.
Mais en fait, t'avais aucune idée.
Non.
Fait que tu te fais dire un terme, t'es comme... OK, mm-hmm. Mais si tu sais pas c'est quoi, tu peux pas nécessairement t'y intéresser.
Puis là, les filles commencent une discussion, c'est surtout ça. C'est surtout okay. De cette façon-là. Les filles commencent une discussion, là... Ça m'interpelle. Puis je me dis, OK, si on parle de ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont écouter le segment puis qui vont faire, moi, mm-hmm. je serais peut-être là-dedans puis je le sais pas. Ouais. Tu sais, si tu sais pas que ça existe, tu sais pas c'est quoi. Mm-hmm. La première question, là, peux-tu nous définir qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, en fait, le contrôle coercitif, c'est vraiment une série de stratégies qui vont être utilisées par un ou une partenaire ou même des ex-partenaires. Donc, c'est vraiment dans une relation amoureuse.
Okay.
Puis le but, c'est ça qu'il faut garder en tête, là, je vais dire plusieurs mots-clés, là, mais c'est vraiment l'objectif de cette personne-là, c'est d'isoler la personne,
okay.
De terroriser. De contrôler, de priver la liberté, en fait, de son ou sa partenaire. Puis c'est vraiment petit à petit. Donc, c'est une accumulation de certains comportements que si on l'isole, on va faire « bon, c'est pas si grave que ça, la personne veut que je partage ma géolocalisation là, sur mon cellulaire, juste en cas d'urgence, par exemple. » Mais ça, ça peut être un des éléments qui fait que de plus en plus, après ça, la personne en vient à faire « hey, t'es pas... Tu disais que tu allais à tel bar, là, tu es rendu à telle place, qu'est-ce que tu fais là? T'sais, donc, on voit que ça peut vraiment devenir un système de contrôle, en fait.
C'est-tu de la violence psychologique?
Ça peut être psychologique, oui, c'est vraiment de la violence conjugale. On parle beaucoup plus d'une dynamique également parce qu'il y a vraiment cet élément-là de ça fait vraiment un pattern relationnel, en fait. Donc, tu sais, quand vous disiez, là, les ah, mais il me semble, j'entendais pas nécessairement ce terme-là, on parlait plus de violence conjugale, mais c'est quand même récent, là, tu sais, dans les années 2000-2007, je pense que j'ai trouvé, là, dans les références, que là, on aborde cette dynamique-là pour vraiment parler de, OK, violence conjugale et fait partie aussi de la coercition, le contrôle coercitif.
Comment, mettons, là, que je t'écoute, là, OK, puis je fais, je suis-tu là-dedans, moi? C'est, mm-hmm. C'est à partir de quand qu'on peut se questionner si est-ce que je suis victime dans mon couple de ça actuellement?
Oui. Ben c'est sûr que moi, je vais plus aller dans l'esprit de dynamique, justement. Est-ce que la personne veut savoir où je suis à tout moment? Si jamais je lui dis pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un peu cet esprit de peur-là, cet esprit d'anxiété, hein, de venir à, ben au lieu de tomber dans une chicane, je vais peut-être éviter certains comportements, donc je vais éviter d'aller voir, ouais, mes amis.
Exact.
Donc, c'est vraiment ça, l'idée de isoler l'autre, prendre le contrôle. Tu sais, on parle aussi de contrôle financier, hein?
Oui.
Donc, une personne qui a accès au compte bancaire et retire, en fait, l'accès à l'autre, là. Donc, c'est assez intense, quand même.
Est-ce que c'est principalement féminin ou masculin, ce genre de comportement-là, où on le voit autant chez l'homme qui peut être victime comme la,
ouais,
femme?
Les deux sont possibles, là, on s'entend. Mais au niveau statistique, c'est beaucoup plus des femmes qui vont être victimes. Par contre, c'est sûr que peu importe le genre, peu importe la dynamique relationnelle, que ce soit dans un couple hétéro ou homosexuel, donc ça vient pas limiter à cet égard-là. Mais c'est sûr qu'au niveau statistique, c'est beaucoup plus des femmes qui en sont victimes.
Moi, j'ai une amie qui s'est retrouvée dans cette situation-là. Et moi, j'ai été témoin de choses. Exemple, elle et moi, on sort dîner, puis on est installés au bar du restaurant pour dîner. Et son conjoint lui demande d'avoir des photos des gens autour du bar parce qu'il a besoin de savoir qui est là, parce qu'il n'est pas content qu'elle vienne dîner avec moi.
Ouais.
Et je ne savais pas à ce moment-là comment ouvrir la conversation avec elle de « Ma belle amie, tu fais rien de mal, là. On, ouais, est en train de dîner, tu retournes au travail après. »
De l'aviser. De...
Comment ouais, ouvrir la conversation avec quelqu'un de notre entourage qu'on se rend compte qui tranquillement tombe là-dedans?
Ouais. C'est vraiment délicat, en, oui, fait, parce que une des choses, c'est, j'arrête pas de le répéter, là, l'isolement. Parce que si on est en train de dire, hey, c'est pas correct, tu dois le quitter, ben tout de suite c'est un peu too much, tu sais, parce que l'autre personne va faire, ben je vais arrêter d'en parler, en fait, parce que tout de suite tu vas dire que je dois le quitter, puis je suis pas encore prête, tu sais. Ouais. Donc c'est ça aussi l'esprit de dynamique qui fait que c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu d'aller puis de pas juger la personne. Puis de tendre la main, d'être présente pour l'autre. Il y a aussi des ressources là, que j'ai trouvées, que je vous ai données, là, mais il y a contrôlecoercitif.ca qui donne vraiment plusieurs outils, et même si c'est une personne proche de nous, pas nécessairement nous là, qui vivons ça. Donc, je le recommande chaudement. Il y a aussi des lignes d'écoute que, même si c'est une personne proche de nous, donc on peut demander des informations. Là. C'est sûr que c'est très délicat parce qu'on veut pas isoler davantage la personne puis faire « Hey, voyons que ça n'a pas de bon sens ». Non, c'est pas réaliste, en fait, de la dynamique.
Au micro de Dallaire le matin, c'est Roxane Bolduc qui est avec nous. Elle est sexologue et psychothérapeute. Moi, des fois, je suis un gars positif dans la vie. Des fois, peut-être trop. Tu comprends? Mettons là qu'on va prendre une situation tangible. Mm-hmm. Moi, là, j'essaie d'isoler Joe. OK? Mm-hmm. On est en couple, ça fait des années, puis j'essaie d'isoler Joe. Est-ce que ça se peut que peu importe comment je me rende compte de ce que je suis en train de faire, que je le réalise et que je change. Mm-hmm. Tu sais, que la situation, que la solution ne vienne pas de la personne qui demande de l'aide, de la personne qui a l'emprise sur l'autre.
Ouais, ça se fait-tu, ça? Qui a ces comportements-là. Ouais. Mais oui, il y a des soutiens aussi là, pour les personnes qui font ce type de violence-là. Là. C'est sûr que du jour au lendemain, on pourrait se questionner qu'est-ce qui fait que la personne réalise ça, parce qu'habituellement, il y a beaucoup d'emprise depuis longtemps aussi. Donc, c'est sûr que oui, d'aller consulter, il y a des organismes spécifiquement, des fois pour les hommes, auteurs de ce type de violence-là. Donc oui, c'est possible là, de demander de l'aide.
Pourquoi? J'imagine que c'est pas la même raison pour chacun, mais qu'est-ce qui crée cette volonté de contrôle-là?
La confiance en soi?
Je sais pas.
C'est très multiple et très varié. C'est sûr que lorsqu'on est devant la personne, c'est de trouver c'est quoi la raison, en fait. Des fois, ça peut être vraiment un niveau d'insécurité, en fait. Des fois, c'est aussi, bien, ils ont vu ça quand ils étaient jeunes, hein? De penser, en fait, que c'est normal d'avoir ce type de comportement-là, type d'emprise-là. Mais des fois, c'est aussi, ils ne savent pas comment se gérer, puis c'est une façon de gérer vers l'extérieur. Donc, on n'a tellement pas de contrôle sur plein de choses dans la vie. Si la personne peut au moins avoir ce contrôle-là, il peut avoir quelque chose de rassurant, mais ça reste vraiment, l'unicité humaine demeure présente, donc il faut quand même aller explorer là, qu'est-ce qu'il y a derrière pour la personne.
Et en contexte de séparation, ça ressemble à quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est encore moins connu, la violence conjugale, en contexte de séparation.
Oui, c'est sûr que là, si, admettons, le couple ont des enfants, ça va beaucoup passer par les enfants. Donc, de communiquer avec l'autre, de donner des excuses que, c'est pour parler des enfants, c'est parce qu'on va faire le changement de garde, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une triangulation par rapport aux enfants là, qui peut se passer. C'est sûr que quand c'est une relation qui n'a pas d'enfants, on peut plus aller dans le harcèlement, par exemple, qui peut avoir lieu. La personne peut quand même maintenir un certain contrôle si elle a encore les accès à l'autre, là, au niveau des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc, ça peut vraiment être utilisé par rapport à la technologie également. Donc, j'irais peut-être plus dans ces possibilités-là aussi.
Et ultimement, est-ce que le contrôle coercitif peut se transformer en violence physique?
Oui, ça fait partie d'une des manifestations. Oui. C'est juste que ce n'est pas uniquement à travers de la violence physique. Parce qu'à la base, si on pense souvent à la violence psychologique, physique, économique, verbale. Donc, contrôle coercitif peut avoir toutes ces manifestations.
Okay. J'ai une question qui vient par la messagerie texte, donc un auditeur, une auditrice. Est-ce possible que cette situation se développe après plusieurs années? Donc, je suis en couple. Tout va bien, puis à un moment donné, il me fait plus confiance ou elle me fait plus confiance. Ça se peut-tu, ça?
Oui, pour avoir un événement qui déclenche peut-être ce niveau d'insécurité-là ou ce besoin d'avoir un certain contrôle, ça se pourrait. Là, il faudra aller voir justement en intervention c'est quoi ce moment-là spécifiquement. Est-ce que la personne peut-être elle a eu un doute au niveau du respect de l'entente d'exclusivité sexuelle et là, ça a été un précurseur pour le maintenir en fait contrôle.
Cette entrevue sera dans la section réécouter, le but, c'est d'en parler. C'est ça le but, c'est d'en parler. Fait que peut-être que quelqu'un va avoir entendu le passage de Roxane, va faire, va donc écouter, il y a un segment qui traîne, va donc écouter ça, ça peut être une façon d'aider mm-hmm. quelqu'un dans notre entourage.
Peut-être juste rappeler les ressources qui sont à la fin du document oui. pour... si on en veut davantage.
Bien, c'est sûr. Moi, je vais toujours plugger le SOS Violence Conjugale. Donc, c'est une ligne d'écoute qui est 24 heures sur 7 ouverte. Et il y a aussi la possibilité de texter. Donc, pour appeler, c'est le 1-800-363-9010. Et pour le texto, c'est le 438-601-1211. Il y a plein de ressources au niveau de contrôlecoercitif.ca. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a plusieurs informations. C'est vraiment fait... par une initiative du regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. Et bien sûr, gardez l'œil en fait sur l'OPSQ si ça vous intéresse de décortiquer ça en consultant, donc pour chercher un ou une sexologue disponible à Québec.
Roxane Bolduc, professeure assistante en sexologie à l'Université Laval, sexologue et psychothérapeute. On se dit à la prochaine?
Oui, à la
prochaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.